C'est la véritable folie du basketball universitaire américain qui s'est amorcée sur l'heure du midi aujourd'hui. 64 équipes vont rivaliser dans un tournoi de basketball fort médiatisé. Évidemment, il y a des compagnies comme CBS et Turner qui ont payé de lucratifs montants pour s'approprier les droits de télé. Mais au-delà du sport, il y a un aspect marketing à cette folie du March Madness. On en parle à l'instant avec l'expert sport et business pour le réseau Cogeco. C'est Ray Lalonde qui nous joint à l'instant. Salut Ray.
Bonjour Dan.
Comment vas-tu?
Ça va bien, merci toi.
Ben oui. Ray, 64 équipes vont rivaliser jusqu'au match ultime présenté le lundi 2 avril à San Antonio au Texas. Mais au-delà des performances sur le terrain, il y a une mise en marché exceptionnelle du March Madness.
Oui, c'est vraiment un événement à caractère unique dans le sport majeur. Là, je parle pas juste du sport professionnel, mais le sport majeur en Amérique du Nord, c'est-à-dire un tournoi avec une braquette à la fin qui fait en sorte que les gens se rivent à la télévision et là, de plus en plus, sur les streams, les flux vidéo, sur toutes les plateformes, parce que les matchs commencent en journée comme aujourd'hui et les gens sont pas toujours près d'une télévision, fait qu'il faut qu'ils consomment ça à tous les niveaux, à toutes les sauces. Et les gens sont vraiment rivés parce que soit leur équipe, leur institution, leur alma mater, si on veut, évolue, soit parce qu'ils ont un intérêt dans leur marché, mais c'est comme les grands tournois majeurs, la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, soudainement, ils sont tous fans de basketball universitaire. Parce que la NCAA a vraiment réussi à concocter le produit parfait. Match ultime, à élimination, beaucoup de revirements, beaucoup de upset, si tu me permets l'expression. La fin, tu sais, miraculeuse d'un jour à l'autre. Le drame d'un match qui se termine par un lancer réussi au son de la cloche. C'est toutes les choses qui font en sorte que ça se présente tellement bien. Puis dans un tournoi de 3 semaines, Dan, c'est après les playoffs, les séries éliminatoires de la NFL, c'est ce qu'il y a de plus payant sur la télévision américaine.
OK. Tantôt, je parlais des droits de télé. Tu as des chiffres pour nous qui, évidemment, vont faire tomber les auditeurs en bas de leur chaise. On est loin des ententes avec les réseaux canadiens et la Ligue nationale de hockey.
Oui, bien, premièrement, juste en publicité, c'est presque 1,3 milliard de dollars dépensés par les annonceurs pour un tournoi qui dure exactement 21 jours.
OK.
Alors, ça, c'est des chiffres, là, encore une fois, on parle de catégorie là, d'une galaxie comme la NFL. Le hockey n'est même pas parmi les 5-6 premiers événements. Et quand je parle de hockey, je parle des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. C'est pour te dire l'importance du basketball aux États-Unis et au Canada. Et en passant, je te fais la note qu'il y a de plus en plus de jeunes Canadiens qui réussissent à faire partie des équipes de la NCAA aux États-Unis, comme c'est le cas au football.
Oui.
Et de la région de Toronto en particulier, qui réussissent à se trouver des postes et jouer dans les institutions américaines en Division 1 et faire partie du tournoi de la NCAA. Mais la NCAA aussi, comme tu l'as dit, pour CBS, puis pour Turner, puis même pour TBS pour le show de sélection, reçoit des centaines de millions de dollars de la part de ces réseaux-là. Parce que le produit est tellement viable que tout le pays se mobilise et les cotes d'écoute sont outrageuse pour un tournoi sportif de 3 semaines seulement. Toute la saison durant, il y a d'autres sources de revenus pour la NCAA et les matchs et les conférences. Mais le tournoi de la NCAA, c'est là qu'il faut être pour les 3 prochaines semaines.
OK, je lisais sur une de tes publications Twitter cette semaine, et j'invite d'ailleurs les auditeurs à l'écoute de l'émission ce soir à te suivre sur Twitter. C'est Real Ray Lalonde. C'est toujours intéressant ce que tu nous amènes comme point ou comme analyse ou comme lien de certains articles. Tu parlais des milliards pariés sur les différents matchs.
Ouais.
Et c'est pas partout. C'est pas dans tous les États américains où c'est légal de faire ces gageures-là.
Non, justement, c'est un très bon point, Dan. 10 milliards, l'estimé pour cette année, 97% de façon illégale.
Aïe aïe.
Et les 4 seuls États qui le permettent, si ma mémoire est bonne, là, c'est évidemment le Nevada avec Las Vegas, le Montana. Écoute, c'est 4 sur 50. Où tu peux miser légalement dans le cadre de paris sportifs sanctionnés par l'État. Et c'est-à-dire de là, le 97% illégal. Illégal. Tu sais, on s'entend que toi et moi, on va faire une mise de 5 $. Ben, c'est forcément illégal, mais à la fin, c'est une mise pareille.
Oui.
Mais les gens aussi sur l'Internet et sur des sites qui sont illicites parfois, ben ils misent des grosses sommes d'argent, puis l'argent qui se fait même un peu dans le noir sur les rues aux États-Unis, dans les marchés américains. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'engouement. Il y a tellement de gens qui veulent remplir leur braquette de leur sélection des 64 choix ou des 64 équipes, si on veut, et d'aller jusqu'au bout avec ça. Il y a aussi un gros tournoi qui se déroule à chaque année sur ESPN. 19 millions de gens ont rempli une braquette l'an dernier sur les 70 millions aux États-Unis. Dans le cadre de ce qu'on appelle le pool sportif de ESPN. Et il y a des bourses énormes pour les miraculeux qui réussiraient à faire une sélection exacte de tous les matchs de la NCAA. Chose pratiquement impossible. Dans l'an dernier, là, 98% avaient déjà une erreur après le premier week-end. Alors, il ne restait que 2% parmi toutes les dizaines de millions de gens qui ont envoyé une braquette pour un concours quelconque.
C'est fascinant. Parlons un peu de Tiger, si tu me permets. Tiger est revenu à la compétition la semaine dernière et on a vu les cotes d'écoute augmenter. Tiger était dans le tournoi jusqu'à la fin, dans la course. Il a terminé deuxième à un coup du meneur. Aujourd'hui, il a très bien amorcé sa première ronde avec un 68. L'effet Tiger sur la PGA, on le savait quand il était là, dans ses bonnes années, entre 97 et 2007. On l'avait évidemment perdu de vue, mais rarement, Ray, tu vas probablement nous confirmer ce soir qu'un athlète a eu autant d'impact sur son sport que Tiger, pas simplement dans les années où il dominait, mais même le week-end dernier et le week-end qui s'en vient, et dans trois semaines quand ce sera le Masters.
T'as raison, Dan. Le seul qui a déjà été à ce niveau-là, qui l'a peut-être mis un peu plus haut encore, c'est Michael Jordan.
Okay.
Michael Jordan, il est arrivé dans la NBA en 1984, et dès son arrivée, les Bulls sont devenus des aspirants. Ils ont perdu quelques années avec les Pistons, mais ils ont bâti une équipe autour de lui. Michael Jordan et les Bulls, c'était comme les Beatles qui se promenaient de ville en ville.
Okay.
J'ai eu le privilège d'être dans la NBA pendant 8 ans durant les années de Michael Jordan. Alors, j'ai vu de mes yeux ce que ça représentait. Tout le monde voulait voir un morceau de Michael Jordan. Rappelle-toi à sa retraite prématurée en 93 et à son retour au jeu avec le numéro 45 une année et demie plus tard.
Oui.
Alors, ce qui est arrivé clairement, c'est que Tiger Woods a pris le relais de Michael Jordan comme machine commerciale.
Okay.
Comme athlète individuel dans un sport très différent, le golf, que du basket. Et a fait en sorte qu'il y a une légion de jeunes aujourd'hui qui sont justement là les Henrik Stenson, les Jason Day, les Rory McIlroy, les Jordan Spieth, qui ont tous grandi en regardant jouer Tiger Woods et qui aujourd'hui sont aussi dominants que Tiger Woods. Donc, c'est très révélateur que lui ait réussi la semaine dernière à terminer deuxième, qui était en lice déjà aujourd'hui, parce que les joueurs autour de lui sont beaucoup meilleurs que ce qui était lors de la première séquence de Tiger Woods. Mais aucun individu sur la planète n'attire les regards automatiques et instantanés un samedi et un dimanche après-midi que Tiger Woods lorsqu'il est en concurrence pour le championnat. Parce que les gens arrêtent de faire ce qu'ils font pour regarder le golf, qu'ils aiment le golf ou non, ils veulent voir ce que Tiger Woods va faire.
OK. Les gens qui doutaient d'un retour du hockey à Seattle ont eu une nouvelle assez révélatrice cette semaine quand le frère de Tim Lewicki, qui est en charge des rénovations du Key Arena, l'ancien grand patron de Maple Leaf Sports and Entertainment, son frère,
oui,
qui travaillait dans la NFL, a décidé de quitter son poste pour joindre le projet de Seattle. C'est bien ça?
Exactement. Puis, tu sais, les frères Lewicki, c'est des gens très influents. Tim, en particulier, parce qu'il a une grosse personnalité. Il était avec les Kings de Los Angeles pendant des années, avec le groupe Dan Schultz. Ensuite, les MLSE l'a récupéré à Toronto. Il est resté que quelques années, mais il a quand même mis en place des bonnes fondations, si on veut, pour les Raptors et les Leafs, et ainsi de suite. Là, il a décidé de quitter parce qu'il voulait devenir un peu entrepreneur, avoir les mains dans plein de choses. Je te rappelle que c'est lui aussi, Dan, qui est responsable de la rénovation du Colisée Long Island, le Nassau Coliseum, et de la construction du prochain.
OK.
À Belmont Park pour les Islanders, qui va faire en sorte que les Islanders vont rester à New York. C'est, oui, Oakview Group,
okay,
sa compagnie aujourd'hui, qui va gérer ça.
Parfait.
Et là, ils vont faire le Key Arena, la rénovation. Et donc, forcément, ils ont hérité, mettons, du mandat de lancer la franchise. Alors, Tim Lewicki, il s'intéresse pas de revenir à être un président d'équipe. Alors, il a récupéré son frère, qui, en passant, a déjà travaillé pour les Seahawks. Il a déjà travaillé pour le Lightning de Tampa Bay. Et il était COO, Chief Operating Officer de la NFL, le deuxième derrière Roger Goodell, pour une période de 3 ans, 4 ans. Il est arrivé suite au comportement là un peu disgracieux des joueurs pour un peu mettre de l'ordre dans ça. Mais c'est un mandat très court et là, il s'en va joindre son frère parce que ultimement, il va prendre la relève et s'assurer que l'entrée de l'équipe de Seattle dans la Ligue nationale se fasse en douceur. En passant, la semaine dernière, là, mise en vente des billets comme dépôt.
C'est incroyable.
C'était 5000 billets en 12 minutes, 33000 billets en 24 heures ou plus.
Ouais.
Ça a triplé le niveau de performance de Las Vegas, qui avait déjà été perçu comme un succès incroyable. Alors, nul besoin de dire que c'est juste une question de quand. C'est pas une question de oui ou non, est-ce que ça va se faire par rapport à Seattle et leur espoir de joindre la Ligue nationale de hockey.
OK, un dernier mot de hockey avant de te laisser. On a appris dans les dernières semaines que Pacioretty et Weber allaient manquer les matchs du Canadien jusqu'à la fin de la saison. Et quand on a appris ça, le Canadien a dévoilé la nature des blessures. Quand on est en cours de saison et qu'un joueur se blesse, il est blessé au bas du corps, au haut du corps, des fois au milieu du corps, mais on ne sait pas trop, il est blessé où. Est-ce que le Canadien n'aurait pas avantage à être beaucoup plus transparent envers ses partisans, dans la mesure où on sait très bien que même si on dit qu'un tel est blessé au pied ou à l'épaule, le match suivant contre Toronto, le hockey, je ne suis pas certain que ça marche encore comme à l'époque des années 60. Je ne pense pas que dans le plan de match de Babcock, il y a des intentions d'aller frapper Weber au genou parce qu'on sait qu'il est blessé au genou.
Tu as raison, Dan, et là-dessus, tu apportes plusieurs bons points. Le premier, c'est que la réponse, oui, les Canadiens devraient être plus transparents. La deuxième réponse, c'est que la plupart des équipes devraient être plus transparentes. On n'est pas dans un jeu de cachotier. Je comprends là l'ancienne garde de dirigeants de hockey, au niveau hockey, là, qui ont un peu des habitudes et des méthodes traditionnelles de garder les choses en secret. Mais on est en 2018. Il y a toutes sortes de plateformes, toutes sortes de moyens. Il y a des dizaines et des dizaines de journalistes qui observent tout. Il y a les caméras de télé qui te permettent de tout revoir. Tu sais, je veux dire, honnêtement, t'as raison. Là, il faut pas non plus prendre les partisans pour des gens qui comprennent rien de ce qui se passe autour d'eux. Ça amène le point à savoir est-ce que ces gens-là devraient effectivement être rayés en permanence. On n'a pas le choix que de donner le bénéfice du doute pour des raisons médicales. C'est dommage et dérangeant un peu pour le partisan qui a payé ses billets et que l'équipe décide tout simplement pour des mesures préventives de faire en sorte qu'un joueur ne joue plus. Quand le gars a acheté son billet 4-5 mois à l'avance, puis a payé le même prix, puis là, son équipe n'est pas du tout la même à regarder ou à consommer aujourd'hui. Ça, là-dessus, là, il y a quand même une question à se poser, à savoir comment on fait pour garder la légitimité, la crédibilité qu'on doit avoir aux yeux des partisans dans une business de divertissement. Et le dernier point, Dan, qui je pense qui est très important, moi, je serais en faveur qu'on soit plus transparent de A à Z et qu'on dise aux gens c'est quoi la blessure. Pourquoi? Parce que si tout le monde le faisait, tout le monde le saurait. Puis si la Ligue nationale n'est pas capable de gérer des cas d'excès de conduite ou d'inconduite vis-à-vis un joueur blessé, tu sais, on a les moyens de reviser chaque jeu vidéo sur chaque angle possible. On serait capable de déterminer si un joueur a abusé et s'il mérite une pénalité, une suspension, quoi que ce soit. Mais le partisan, lui, il est toujours un peu le dernier servi dans ça. Facile à dire de ma part, bien entendu. Autre chose, l'appliquer. Mais moi, je serais en faveur qu'on applique des règles différentes par rapport à la transparence sur les blessures.
Parfait. Un gros merci, Ray. Bonne soirée à toi.
Merci, Dan.
À bientôt. Ray Lalonde, que vous pouvez suivre sur Real Ray Lalonde sur Twitter. Toujours intéressant de lui parler quelques fois par année. J'allais dire presque chaque semaine maintenant dans l'avant-match. On s'arrête un court instant. Au retour, on parle d'un championnat canadien fort important qui débute demain au PEPS de l'Université Laval.